à toutes et à tous. Salut Hélène, ravie de se retrouver pour ce second épisode à deux voix pour parler de nos coups de cœur. Eh bien, écoute, je vais te laisser présenter un petit peu l'œuvre dont on va parler aujourd'hui et faire une petite intro, Hélène, si tu le veux bien.
Bah oui, avec plaisir. Alors, du coup, pour ce nouvel épisode sur un coup de cœur, voilà, qu'on partage aujourd'hui, c'est en fait un roman graphique qui s'appelle Resisters. Donc, c'est un roman graphique écoféministe, du coup, de Jeanne Burgard-Goutal et Aurore Chapon, qui est sorti fin 2021. Alors, pour donner un tout petit peu de contexte sur ces deux femmes, il faut savoir que Jeanne Burgard-Goutal, elle est professeure agrégée de philosophie. Elle est aussi autrice d'un livre intitulé Être écoféministe, théorie et pratique, qui en fait est le fruit de longues recherches, mais aussi de ses expériences à elle. Et Aurore Chapon, elle est designer graphique et illustratrice, pardon, et elle travaille plutôt dans le secteur voilà, culturel et associatif. Et elle fait actuellement un travail de recherche artistique en lien avec les luttes féministes, écologistes et donc écoféministes. Donc elle se retrouve autour de cette œuvre-là. Donc ce roman graphique, on comprend bien qu'il y a du contenu et des images en gros. Et donc elles se retrouvent toutes les deux sur cette œuvre-là. Pour résumer un petit peu le roman, donc c'est un roman écoféministe hein, qui prend place en 2030. C'est une dystopie. Qui ressemble un petit peu quand même à notre société actuelle, malheureusement. C'est un peu ce qui fait flipper quand on démarre le roman, mais voilà, on sent qu'on n'est pas très très loin de la société actuelle si on pousse les curseurs un petit peu plus loin. Mais voilà, donc ça reste quand même une dystopie dans laquelle on suit sept personnages qui vont évoluer en fait au fil de l'histoire. Ils vont découvrir l'écoféminisme au travers d'un mouvement, donc le fameux mouvement des Resisters, donc le titre de l'ouvrage. Et en fait, ces différents personnages-là, ils vont prendre conscience petit à petit des problèmes engendrés par la société actuelle, donc une société patriarcale, capitaliste et néocoloniale, hein. Et puis, ils vont surtout déconstruire leurs pensées, les stéréotypes qu'ils peuvent avoir. Ouvrir les yeux sur certains sujets et petit à petit va y avoir quand même aussi ce souhait de passer à l'action finalement pour changer les choses et se mettre un petit peu en opposition avec cette société qui leur convient pas tant que ça. Et ce qui est intéressant aussi c'est qu'au même titre que l'écoféminisme finalement se trouve à l'intersection de plusieurs luttes, plusieurs sujets, plusieurs enjeux, je trouve que le destin des personnages bah, ils sont aussi liés en fait et chacun chacune peut avoir un impact sur autrui. Donc on voit bien l'interconnexion des enjeux mais aussi des destins. Donc ça c'est assez intéressant ce parallèle-là. Et en tout cas avec les personnages, on découvre donc les Resisters qui est un mouvement, une communauté qui se veut être en rupture en fait avec ce fameux système patriarcal, capitaliste, néocolonial. Qui est aussi une société du coup bah, marquée par la course au profit, l'épuisement des ressources, les restrictions de liberté, l'accentuation de discrimination. Et voilà, et ce mouvement des Resisters finalement vient proposer une autre façon de vivre ensemble qui est quand même plus connectée à la nature, au vivant, avec de l'entraide, de la solidarité. Enfin voilà, toutes les valeurs piliers finalement de l'écoféminisme. Et puis il y a un refus du progrès à tout prix sans aller non plus dans un retour en arrière. Mais voilà, il y a vraiment cette rupture et cette opposition-là entre ces deux visions et comment on fait société et comment on vit ensemble, quoi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une question un peu en fil rouge, en filigrane. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, c'est cette personne-là, les sept personnages, pardon, qu'on suit, se demandent finalement comment on peut agir, comment on peut passer à l'action pour changer de modèle, changer de société quand on n'a pas de pouvoir ni d'argent. En gros, pour résumer, c'est un peu ça le cadre de l'histoire et du bouquin.
Alors, pas forcément les sept personnages, parce que Pierre, a priori, c'est celui qui... Il y a quand même un homme dans l'histoire qui a un peu d'influence, un peu de pouvoir, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on voit en fait lui, son évolution et comment il va parvenir ou pas. On va pas tout dévoiler non plus, mais se déconstruire. Mais c'est vrai que la plupart des personnages, c'est un petit peu ce qui les motive tout au long du bouquin, c'est on ne peut pas vivre dans cette société, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Comment on peut se bouger, comment on peut faire bouger les choses, quoi. Tu peux nous dire qu'est-ce que toi, t'as particulièrement plus intéressé dans ce format de roman graphique?
J'ai pas l'habitude de lire des romans graphiques déjà, donc j'ai découvert avec celui-ci. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est déjà au niveau comment dire, de l'ouvrage en lui-même, de l'objet en fait, et des dessins, des illustrations, c'est hyper coloré. C'est des couleurs quand même qui restent assez chaude, assez intense, je dirais. Et moi, ça m'a bien plu. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. C'est assez fourni. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que, en fait, finalement, il y a beaucoup d'illustrations qui me faisaient penser un petit peu à une, comme c'est très fourni, un peu à une jungle, à une nature luxuriante. Donc, je trouvais intéressant le parallèle du coup qu'on peut faire avec l'écoféminisme et ce souhait de valoriser le vivant, la nature, etc. Et puis les dessins, les illustrations, elles viennent bien, ça aide finalement à mettre en évidence les liens, les connexions entre les différents problèmes, les solutions. Ça aide à la compréhension aussi, je trouve, des concepts qui sont abordés, parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'apports théoriques dans le bouquin, et ça vient finalement aider à la compréhension, à la lecture. Ça permet aussi de digérer des informations. Sans tout dévoiler, il y a l'exemple de à un moment, là, c'est dessiné, en fait, la maison de l'écoféminisme. En tout cas, si l'écoféminisme était une maison, et on voit, en fait, les différentes pièces, qui, correspondent finalement à des thématiques fortes dans l'écoféminisme. Donc ça va être tout ce qui est post-colonial ou anticapitaliste ou les questions de genre, ce genre de choses. Donc c'est intéressant, je crois, que ça soit dans une maison. L'image est assez chouette. Je sais pas ce que toi t'as ressenti.
Bah, c'est vrai que c'est exactement ça. Les couleurs sont vraiment chatoyantes et ça, c'est agréable à lire, alors que le fond, finalement, est quand même très sérieux, très fourni, très riche et dense en informations. D'ailleurs, les pages, qui sont sans dessin, bah, du coup, d'un coup, paraissent beaucoup plus fades et on se dit, oh là là, ça va être moins digeste. Donc, ça me permet ça. Après, moi, j'avais trouvé ça intéressant parce que j'ai un peu fait j'ai fait deux, trois recherches rapides sur le roman graphique. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était un genre littéraire qui était de plus en plus utilisé, plébiscité, et qui séduisait avant tout un lectorat féminin. Bah, on peut le voir avec Pénélope Bagieu. Moi, c'est avec Bagieu que j'ai lu mes premiers romans graphiques. C'est vrai que c'est sur les femmes fortes aussi, toutes les femmes, enfin l'histoire qui a effacé les femmes, en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ça aussi en tête quand on lisait le livre. Et ici, clairement, je trouve que la forme du roman graphique, les dessins, le format en A4, ça sert vraiment le fond. Enfin, ça sert vraiment d'explication, d'illustration à ce qu'on vient poser, en fait.
Et justement, si on parle un petit peu du fond, est-ce que toi, il y a des, enfin, quelles sont les thématiques plutôt ou les idées fortes que tu retiens?
Bah, écoute, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était effectivement le... Alors c'est pareil, on va pas tout dire non plus, mais en gros, le point de départ qui est clairement bah, suite au premier confinement, je pense que je sais pas si elles l'ont écrite et illustrée pendant le premier confinement, à la suite, ou en tout cas elles ont dû avoir l'idée à ce moment-là, parce qu'il y a énormément de scènes qui reviennent, qu'on a pu vivre en fait pendant le confinement, qui sont là, le trait est grossi, mais qui nous font penser à ce qu'on a pu vivre. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion que dans tout le livre, dans tout le roman, les personnages ont des masques. Donc je me suis dit, ah oui, ça c'est vrai que ça fait mal. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps encore, on devait les porter un peu de partout, un peu tout le temps. J'ai bien aimé quand il parlait au début de la stratégie du saucisson, qui est en fait, et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui aussi, j'ai l'impression, dans plein de cas, l'actualité c'est sur les méga-bassines ou la réforme des retraites, mais c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on coupe des tranches de liberté, des tranches de pouvoir de décision, de démocratie. Donc c'est vraiment ça, on saucissonne un petit peu tout ce qu'on a mis des siècles à construire. Et puis, après, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment tout est lié, connecté. Ça, c'est vraiment ce que nous apprend, en fait, l'écoféminisme. Et je trouve que c'est un bon moyen de, justement, s'intéresser à l'écoféminisme et arriver à mettre un pied dedans. Parce qu'on parle, ça parle d'histoire, ça parle de, des luttes d'aujourd'hui, ça parle des luttes à venir aussi. Et finalement, voilà, comment il peut y avoir une nouvelle forme de résistance, une nouvelle forme de lutte qui est possible. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et il y a plein d'idées à noter, en fait. Il y a plein d'idées où il faudrait avoir un carnet à côté de soi et pouvoir noter déjà tout ce qu'on veut tirer comme fil, comme source, parce que c'est énormément documenté. Donc, c'est vrai que ça appelle à creuser plein de sujets. Et puis, au-delà de ça, des modes de fonctionnement, des modes de lutte, le fameux mouvement des résisteurs aussi, la façon dont ils fonctionnent, la façon dont les outils d'intelligence collective sont pris en compte, la gouvernance, l'holacratie, enfin, il y a énormément de façons de travailler, de collaborer qui sont mises en avant, qui sont connues dans certains cas aujourd'hui, dans des entreprises, dans ces structures, des assos, mais je trouve que c'est intéressant de le porter là à un mouvement, à une communauté. Et comment on s'en sert pour faire advenir une société plus écoféministe, quoi.
Ouais, non, carrément, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir évoluer ce mouvement dans l'histoire et puis comment ça se diffuse, en fait. J'aime bien cette image, moi, c'est un peu ce que je ressentais, c'est que petit à petit, tu vois, ça vient se déposer ci et là, et puis ça se diffuse, et puis ça prend, quoi. Il y a comme si on voyait un peu les ramifications de ce mouvement et de ces valeurs qui se propagent. Et puis quand même en douceur quelque part, sans violence, parce que c'est quand même beaucoup. Ça évoque quand même un peu de désobéissance civile et ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée aussi de complètement changer la façon dont on vit. Finalement, on fait toujours la même chose, mais on fait toujours la même chose, mais différemment. C'est bizarre à dire comme ça, mais voilà, on continue à travailler, on continue à manger, on continue à produire des choses, mais plus du tout dans le même but et de la même façon. Et l'idée, c'est effectivement plutôt de faire ensemble, on transmet différemment aussi, on partage des compétences et des savoirs différemment. L'idée de, enfin, dans ce mouvement, dans cette communauté qui est un peu finalement un village à part, on s'échange des, enfin, on sent qu'il y a de l'artisanat, qu'il y a effectivement l'autogestion, c'est vraiment une façon complètement différente de vivre et de travailler ensemble quelque part. Il y a plus d'échanges, de partage, donc ça c'est intéressant et ce qui est complètement en opposition avec la société qui est décrite, qui repose beaucoup sur la compétition. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand même. C'est ce fameux Pierre, qui est le personnage qui a un peu plus de pouvoir que les autres, parce qu'il travaille, il a un poste important dans une entreprise. Voilà, on le voit quand même évoluer dans un monde de l'entreprise qui est hyper compétitif. Et au sein même de l'entreprise, on sent que c'est de la compétition entre les salariés, que les gens d'en haut, entre guillemets, méprisent ceux d'en bas, que la masse salariale, c'est juste une variable d'ajustement comme une autre pour réduire des coûts. Enfin, voilà, on est juste dans des chiffres, dans des reportings, dans des... Et l'être humain n'a pas tellement de valeur, quelque part. Du coup, entre collègues ou autres, tu vas pas tu ressens pas spécialement de l'entraide ou de la solidarité. C'est vraiment la course au profit, la course au progrès, la course à l'exploitation de toutes les ressources, juste parce qu'il faut il faut produire, il faut faire, il faut travailler, on sait même pas tellement pourquoi. Ça perd un peu de son sens.
Ouais. Ça c'est un état des lieux en fait, parce que pour moi c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui se passe, même si là la finalité est autre dans le livre, et c'est vrai qu'il y a ça va plus loin que ce qu'on peut, là où on peut aller nous en tout cas. Il y a l'éthique est sacrément ébranlée dans le roman, mais en tout cas, tu vois ce que tu décris là, pour moi c'est ce qu'on vit quoi.
Bah carrément, c'est pour ça que cette dystopie elle est quand même très malheureusement très familière quoi. Parce qu'ils ouais. En fait elles ont poussé les curseurs un peu plus loin pour voir ce que ça donne, et malheureusement on sent que cette fameuse stratégie de saucissonner, bah nous on n'en est pas loin en fait. Moi ce qui m'a marqué aussi c'est justement cette critique de la croissance verte. Ça fait penser à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend sur le développement durable, croissance verte, etc. Mais en fait ça n'a pas de sens, parce que ça reste de la croissance, ça reste de la course au profit. Simplement on essaye de le faire avec du verre quoi. Sauf qu'il y a rien de durable. Je trouve bizarre de dire développement durable et croissance durable, ça va pas tellement ensemble. Pour moi c'est un peu un non-sens, mais voilà, il y a cette critique là aussi dans le roman qui est intéressante, et on est déjà complètement dedans, mais là dans le roman on est un pas plus loin et on se dit oh là là, ce serait bien d'arrêter de fonctionner comme ça maintenant pour éviter d'aller vers toujours plus de conquête de la nature, toujours plus d'exploitation des ressources, toujours plus de systèmes de domination sur entre êtres vivants et entre êtres humains. C'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point ça ressemble à la société dans laquelle on est. Et les liens qu'on peut faire avec plein de sujets. La connexion au vivant, la façon dont on s'alimente, dans l'ouvrage c'est quand même dépeint comme une nourriture très très industrielle, presque chimique, presque de synthèse. C'est bizarre, c'est complètement déconnecté du vivant, et au final on se rend compte que dès aujourd'hui on voit un peu les prémices de ça si on change pas de cap. Pareil pour dans l'ouvrage, il y a un peu de choses abordées autour de l'industrie du textile ou de la mode, enfin avec le fait que l'Asie et l'Afrique soient un peu les ateliers du monde pour les besoins entre guillemets occidentaux, et c'est déjà le cas en fait. Donc il nous faudrait un vrai mouvement des résisteurs dès aujourd'hui. Il y a évidemment des choses qui existent déjà, mais c'est intéressant, ça donne envie de se projeter en fait et de créer un mouvement, de voir des résisteurs apparaître de partout.
La chute du roman est vraiment chouette, parce que c'est une belle lueur d'espoir, tu vois, pour toutes les personnes qui justement peuvent être complètement déprimées à la lecture de cet ouvrage, parce que bon, clairement c'est vrai que ça décrit quand même une société qui fait pas rêver, mais je trouve que c'est pour ça que pour moi il faut vraiment absolument lire Résisteurs, c'est que ça nous apporte évidemment plein de billes, plein de connaissances et voilà, une richesse énorme sur les mouvements des écoféministes. Mais au-delà de ça, il y a quand même une vraie les luttes qui restent à mener sont décrites, la façon dont on peut les mener aussi. Et je trouve ça, voilà, moi ça m'a donné envie de m'engager, de, comme tu dis, de fonder mon propre mouvement de résisteurs, ou de se dire tiens, comment on peut inventer de nouvelles formes de résistance et pour lutter, et voilà. Et en fait c'est concret quoi, c'est des choses qui sont palpables aussi, parce qu'il y a toute une partie un peu rêvée, un peu tu vois, imaginée dans le livre aussi, donc des fois on pourrait dire là c'est décorrélé de la réalité, mais finalement je trouve que ça finit vraiment sur cette note de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter, et en fait il y a des choses qui peuvent être mises en place, alors sans vous dire lesquelles, vous devez le lire maintenant pour le découvrir.
le roman répond bien à la question dont on parlait en introduction, c'est comment on peut agir et lutter sans forcément avoir du pouvoir et de l'argent. Et ça donne de l'espoir et de l'optimisme. Et effectivement, je confirme, moi aussi, ça m'a donné envie de m'engager. Donc, on espère que les personnes qui nous écoutent auront envie de le lire et de s'engager aussi après pour un monde plus écoféministe.
Exactement. Moi, j'ai envie de poser la question, à quand un mouvement des résisteurs ? Ce qui est chaud, là.
Ouais, effectivement, c'est une très, très bonne idée. On devrait lancer un appel.
Exactement.
Voilà, on devrait initier ça. Très bonne idée.